Ensemble,
ici.
Radio Livre.
La radio des initiatives.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h et comme chaque lundi sur le marché de producteurs des piles, on se retrouve en direct avec Radio Livre aujourd'hui pour l'avant-dernière émission de la saison. Alors il y a du vent sur le marché, j'espère que ça ne s'entend pas trop. On est en direct sur ensembleici.fr et on reçoit donc pour un studio ouvert aujourd'hui, c'est-à-dire que chacun peut venir librement s'exprimer sur le sujet qu'il veut. Et on reçoit donc d'abord Hélène et Robert qui ont tenu à venir nous parler de l'abstention et de l'inscription sur les listes électorales. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Théo.
Et bonsoir Robert.
Bonsoir.
Donc vous avez tenu à venir aujourd'hui sur le studio de Radio Buvette pour nous parler de l'abstention et de l'inscription sur les listes électorales qui, je crois, vous tient à cœur. Alors pour quelle raison est-ce que c'est si important selon vous, de s'inscrire sur les listes électorales pour aller voter donc, pour les élections présidentielles et les autres élections qui arrivent en 2017?
Alors, d'abord, en 2012, on a vécu le fait qu'il y ait des copains, au fur et à mesure qu'ils entendaient des choses dans la campagne, qui disaient, oui, effectivement, il faut prendre parti parce qu'il y a des enjeux très importants pour tout le monde. Et puis, au moment d'aller voter, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas inscrits, qu'ils avaient déménagé, qu'ils ne s'étaient pas réinscrits, que du coup, ils ne pouvaient plus voter. Et c'était trop tard. C'était trop tard parce que si on n'est pas inscrit le 31 décembre, on ne peut pas voter. Et en 2017, il y a en France deux élections très importantes pour notre avenir à tous. La première, c'est la présidentielle. Tout le monde est au courant. Et puis la deuxième, c'est les législatives. Donc nos députés, ceux qui nous représentent à l'Assemblée, ceux qui votent ou ne votent pas les lois, les motions de censure, etc. Et effectivement, si les gens qui sont là-bas ne partagent pas nos idées, après, il ne faut pas s'étonner que les lois qui sont promulguées ne correspondent pas à nos attentes.
Ok, donc vous parliez donc des gens qui souhaitaient voter et qui ne le peuvent pas, presque par omission, parce qu'ils ne se sont pas inscrits par liste électorale. Aujourd'hui, il y a aussi tout un phénomène d'abstention, mais presque par conviction, des gens qui ne souhaitent plus aller voter ou alors qui sont complètement dans la désillusion des politiques actuelles et qui ne savent plus quoi voter, qui se demandent si finalement le vote est un véritable levier d'action. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre à cela ?
Oui, je peux répondre, c'est que les faits le prouvent, c'est que il y a un président de la République qui a été élu sur des promesses qu'il n'a pas tenues. Actuellement, on est gouverné depuis 3 ou 4 fois, je crois, des lois qui sont passées avec le 49-3. Je pense qu'on n'a pas élu les députés pour qu'ils s'effacent derrière le 49-3. Donc les gens qui ne vont pas voter, je les comprends. Je les comprends parce qu'on va élire des gens, on va élire des députés, et ces députés se couchent devant, où on les oblige à se coucher devant une loi qui s'appelle le 49-3. Donc, je pense que c'est complètement anormal, c'est complètement antidémocratique, il faut le dire. Et je comprends que ces gens n'ont plus envie d'élire des menteurs, et je pèse mes mots, des menteurs, puisqu'ils sont élus sur des promesses qu'ils ne tiennent pas. Voilà. Maintenant, bien sûr que j'incite les gens à aller voter parce que c'est un droit acquis de longue lutte depuis très longtemps. C'est un droit, alors on va voter, on peut voter blanc, on peut voter, on peut voter nul, mais allons voter quand même. Voilà, maintenant, avant de dire que les gens disent « je ne vais pas voter parce que tout le monde, il me dégoûte », entre guillemets, et je les comprends encore une fois, avant de prendre cette décision, qu'ils prennent la peine d'aller étudier les différents programmes qui sont soumis par les différents candidats. Et je suis presque sûr qu'ils trouveront des candidats où le programme pourra peut-être les inciter à aller voter. Voilà.
Alors moi, je vais continuer parce qu'il y a quelque chose de vraiment très, très important qui s'est passé en France. C'est en 2005, on nous a proposé un référendum sur le traité constitutionnel européen. Et pendant plusieurs mois, sur un texte absolument illisible, vraiment très décourageant, les citoyens se sont retrouvés. Il y a eu des petites caravanes dans les départements. Les gens sont allés à la rencontre d'autres personnes. Et ensemble, ils ont étudié des passages de ce texte. Et finalement, la conviction s'est forgée. C'est-à-dire que ce n'était pas comme au supermarché où on a le choix entre plusieurs étiquettes, vaguement la couleur, la cravate, le sourire. Ce n'était pas ça, c'était on nous propose un texte qui va engager notre avenir. Et par rapport à ce texte et à la société dans laquelle on veut vivre, eh ben, on prend le temps de s'informer, on prend le temps de comprendre et après, on vote. Et donc, il y avait eu quand même énormément de participation à ce référendum. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps dans le sens où, dès que Nicolas Sarkozy a été élu, il s'est débrouillé pour faire une forfaiture. Il n'y a pas d'autre mot, c'était vraiment ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser passer. Ça ne veut pas dire que si on s'abstient, quelque part, on leur laisse tous les pouvoirs. Parce que les gens qui ont intérêt au système tel qu'il est, eux, ils vont voter. Et eux, ils mettent en place les personnes qui les intéressent. Enfin, quand même, dans un gouvernement dit socialiste, il y avait 14 millionnaires. Bon, Emmanuel Macron a démissionné, donc il y en a un de moins. Mais dans un gouvernement dit socialiste, c'est-à-dire que les citoyens ont élu parce que vraiment, ils veulent autre chose. Ils ont vraiment conscience des urgences aussi bien écologiques que sociales. Eh ben, on se retrouve avec le pouvoir confisqué, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, par des gens qui sont là pour défendre leurs intérêts. Et donc là, s'il n'y a pas vraiment de la part de tous les citoyens une sorte de réveil de citoyenneté en disant ben, on arrête de se laisser faire et toutes ces conquêtes de nos aînés, parce que quand même, si on réfléchit, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est toujours fait par la lutte, en particulier les femmes. Il ne faut pas qu'on oublie qu'en 46, seulement en 1946, on a été considérées comme citoyennes et on a eu le droit de vote. Alors maintenant qu'on a ce droit, si on ne l'utilise pas quelque part, après, il ne faut pas se plaindre du système tel qu'il est. Soit on le combat, soit on l'accepte. Et le vote, c'est peut-être la meilleure manière actuelle de le combattre, parce que sinon, ça risque de se finir dans la violence.
Est-ce que le vote, finalement, est forcément bon aussi quand on se demande si par exemple, on peut voir ce qui vient de se passer au Royaume-Uni avec le Brexit, un référendum où les gens sont amenés à voter. Finalement, on s'aperçoit que c'est plutôt les personnes âgées qui ont voté pour la sortie de l'Europe. Donc finalement, on peut se demander si ce n'est pas des personnes âgées qui choisissent aussi le sort des nouvelles générations. Je veux dire, le vote ne prend pas forcément toujours en considération ces dimensions. Et on se demande aussi, par exemple, dans la montée de l'extrême droite, il n'y a pas aussi des abstentionnistes qui se sont réveillés et qui ont voté à l'extrême droite. Est-ce qu'en allant voter, on n'accepte pas aussi certaines règles du jeu qui fait que si c'est l'extrême droite qui passe, on accepte la règle et c'est de se dire aussi que voilà, que c'est la majorité qui choisit, peu importe que choisit cette minorité. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'éducation politique finalement derrière ça? Est-ce que les gens sont assez éduqués politiquement pour pouvoir voter en libre conscience et en libre cause? Est-ce que le vote se suffit à lui-même finalement? Et est-ce qu'il est toujours bon dans tous les cas?
Alors, le vote n'est pas toujours bon, mais en tous les cas, il exprime un état d'esprit. Après, il reflète la manière dont les citoyens se mobilisent. Parce que, par exemple, on a tous en mémoire ce qui s'est passé en 2002 et le fait que le Front National a été au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais si on regarde bien, il y a eu un taux d'abstention énorme pour une élection présidentielle. Parce que d'habitude, c'est une élection où les gens vont pas mal voter. Et là, il y a eu pratiquement 30% d'abstention. Et finalement, si on regarde bien, Jean-Marie Le Pen, il a été au second tour de l'élection en 2002 avec 4 800 000 voix. C'est vraiment pas énorme quand on se rappelle que le candidat du Front de Gauche en 2012, il a eu 4 millions de voix et il a fait 11%. Donc, on a peut-être trop tendance à se laisser bercer par les sondages. à écouter ce qui se dit, en oubliant que finalement la plupart des grands médias appartiennent aux milliardaires et qu'ils ont tout intérêt à divulguer une propagande qui va dans leur sens et pas dans le sens des intérêts des citoyens. Et du coup, on entretient cette espèce de désillusion en disant « ça sert à rien d'aller voter », etc. On a toujours le droit de voter blanc. Mais au moins, quand on vote, on compte, on est compté. Parce qu'il faut savoir que quand même, en particulier pour certaines des élections, le fait de pouvoir se maintenir au deuxième tour, par exemple, c'est lié au fait, au pourcentage par rapport au nombre des inscrits. Donc plus on est nombreux à se manifester, plus finalement on rééquilibre la représentativité du vote. Donc ça, c'est un critère qu'il ne faut pas oublier. Voilà.
Robert, avec quelque chose à ajouter.
Oui, je voulais, puisque c'est toi qui as lancé qui a parlé du Front National, je voudrais dire que les abstentionnistes, je ne veux pas leur lancer la pierre, mais au plus il y a d'abstention, au plus, mathématiquement, c'est mathématique, hein, le pourcentage par rapport aux votants du Front National est élevé. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de votants, qu'il y a plus de voix. Le Front National, en nombre de voix, ne monte très peu.
Vous ne pensez pas que le Front National arrive à convaincre des abstentionnistes aujourd'hui?
Non, les électeurs du Front National, eux, vont voter et ne s'abstiennent pas. Et je ne crois pas, non, je ne crois pas que les abstentionnistes qui sont désabusés par la politique vont se réfugier au Front National. Je ne crois pas.
Pourtant, on dit souvent qu'il y en a de plus en plus qui sont désabusés à la fois du Parti Socialiste, de l'UMP, donc aujourd'hui des Républicains, et qui se tournent vers le Front National un peu comme par vote de contestation, quoi. C'est devenu un vote contestataire, finalement, de voter Front National. Et ils gagnent beaucoup de voix. Enfin, c'est ce qu'on fait croire, en tout cas, c'est ce que disent certains médias. Donc c'est aucunement un vote de contestation, on le sait, mais c'est présenté comme ça. Il y a des nouveaux électeurs quand même qui se dirigent vers le Front National, et ça, c'est une réalité.
Alors oui, bien sûr, c'est une réalité. Et peut-être que... moi, je comprends qu'ils aient envie de manifester leur colère. Mais je pense que c'est peut-être vraiment pas la bonne manière. Parce qu'il ne faut pas oublier d'où vient le Front National. D'ailleurs, la médiathèque de Nyons a fait l'effort d'acheter un bouquin d'une historienne sur l'histoire du Front National. Et donc, quand on lit ce bouquin, il faut peut-être le lire à plusieurs parce qu'il est assez costaud, il n'est pas évident. Mais on voit très bien que c'est la droite ligne des fascistes des années 30. C'est vraiment ce mouvement-là qui s'est continué. Ça ne résoudra aucun de nos problèmes. Ça ne risque que de nous conduire à la guerre civile. Je ne pense pas que les Français ont envie de ça. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier que la famille Le Pen est une des familles de l'oligarchie française. C'est des gens extrêmement riches et ils ne feront pas, quoi qu'ils viennent piquer les idées des citoyens de gauche, ils ne feront pas une politique de gauche. Ils feront une politique pour leurs amis. Il ne faut pas se leurrer là-dessus.
Oui, puisque tu as cité le nom, les Le Pen, donc la candidate du Front National a exprimé son opinion par rapport à Trump, qui aujourd'hui, en France, pourrait soutenir Trump. Je ne sais pas trop, mais elle, oui. Elle préfère Trump à Clinton pour les États-Unis. Voilà, donc quand on sait les âneries et les grossièretés, ouais, je le dis, que dit Trump, ben, ça convient à la candidate du Front National.
Mais ça revient à la question de l'éducation politique dont on parlait tout à l'heure. C'est des choses qu'on sait, mais que pas tout le monde sait. Et quand on sait le pouvoir que peut avoir le vote, finalement, d'élire quelqu'un qui aura donc à qui on délègue aussi son pouvoir sur des grandes questions internationales, les questions du chômage, des grandes questions économiques, sociales, sur l'éducation, sur la santé. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, le débat, finalement, se focalise beaucoup sur des affaires comme le Burkini. Et les gens s'en emparent et votent autour de ce genre de thème. Est-ce que ce n'est pas dangereux, finalement, de faire voter les gens sans qu'ils soient forcément éduqués à tout ça, quoi?
Alors, on peut faire une proposition, puisque déjà, bon, moi, je travaille à l'Allo Fromage, et déjà, dans le cadre de mon travail... Il y a tout le temps, régulièrement, des choses qui sont affichées, qui sont de l'éducation politique. Après, les gens sont d'accord ou pas d'accord, mais au moins ils débattent. Et moi, je pense que l'essentiel de l'éducation politique se fait par le débat. Quand on a fait en 2012 la campagne à la fois pour les élections législatives et pour la présidentielle, on faisait à l'époque ce qu'on appelait des assemblées citoyennes. On a fait tout un travail autour de cette question, des questions soulevées par ces élections. On a eu dans certaines réunions jusqu'à 200 personnes à Nyons. Donc, en fait, il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin des personnes de comprendre, de sortir de la confusion, de savoir où on va. Et nous n'avons pas arrêté de nous former, justement, parce que ça nous paraît tellement essentiel pour l'avenir. Il y a des enjeux écologiques énormes. On parle du réchauffement climatique. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, le réchauffement climatique va avoir des effets sur tout le monde. Peut-être que les riches arriveront mieux à s'en protéger que les pauvres. Mais si on finit par rendre la planète inhabitable pour le genre humain, ça touchera tout le monde. Voilà. Donc, c'est des enjeux. On est à un moment de bifurcation où on arrive à bifurquer, où on va vers la souffrance et on n'a pas envie de ça pour... Enfin, moi, j'ai mis des enfants au monde, j'ai cette responsabilité. On n'a pas envie de ça pour les générations qui montent. Quoi. On a envie qu'elles profitent du bonheur de vivre, de la joie de vivre, des rencontres, des plaisirs, de tout ce qu'il y a de beau dans l'existence. Donc, cette éducation populaire, elle peut se faire. On peut tout à fait faire des petites rencontres un peu informelles et puis on discute et puis les gens apportent des informations que nous n'avons pas forcément et réciproquement. Ce qui est important, c'est que les personnes se saisissent de la question citoyenne. Ça, c'est vraiment essentiel.
Est-ce que l'enjeu n'est pas là finalement aujourd'hui plus que... Enfin, le vote également, mais est-ce que... Il ne faudrait pas aujourd'hui se concentrer justement sur cette sensibilisation-là et sur cette éducation populaire dont tu parles ?
Alors, oui, bien sûr. Oui, vraiment. Ça, c'est essentiel. Mais quand même, on rappelle qu'il y a un cadre de loi pour les élections et que ce cadre de loi dit que si on n'est pas inscrit sur les listes électorales au 31 décembre, on ne participe pas au scrutin. Donc, il vaut mieux aller s'inscrire, parce que vraiment, ce n'est pas une grosse formalité. Il faut avoir une pièce d'identité, un justificatif de domicile, et aller à la mairie de son domicile s'inscrire, c'est vraiment quelque chose qui est très, très facile à faire. Et il vaut mieux être inscrit et après décider que finalement, on ne va pas voter, que tout d'un coup, de se dire au mois de mars, ah, mais c'est vraiment important que j'aille voter, et zut, je ne peux pas, je n'ai pas fait les démarches en temps et en heure. Ça, c'est vraiment trop bête, quoi.
Et on le rappelle, donc les inscriptions sur les listes électorales ont lieu jusqu'au 31 décembre.
Le 31 année. Décembre, si on y va le 2 janvier, c'est trop tard.
On rappelle en même temps que c'est un studio ouvert, donc que tout le monde peut participer, poser une question. Alors on n'entend pas peut-être là-bas et qu'on se retrouve de toute façon dans un petit instant. On va faire une petite pause musicale et on continuera de parler de ce thème, donc du vote. Et peut-être, si monsieur le maire a envie d'intervenir, non ? Non, il ne veut pas. On se retrouve tout de suite après une petite coupure musicale. Et on écoute Bratch ? Bratch. Ti la pamela de Vladimir.
Fetti la paverina de blale, da ljubova te verila.
On reprend, pardon. Donc on est toujours avec Hélène et Robert autour du thème de l'abstention et de l'inscription sur les listes électorales qui, je le rappelle, a lieu jusqu'au 31 décembre. Alors peut-être un peu plus tard, mais il ne faut pas encore le dire parce que ce n'est pas sûr. Et on en était donc à voilà, l'importance que ça pouvait avoir de s'inscrire sur les listes électorales. Donc pas tout le monde est convaincu apparemment. On rappelle que c'est un studio ouvert et que chacun peut venir d'ailleurs s'exprimer sur son opinion. On me dit non de la tête, mais...
Bah, y a une jeune femme qui est venue là et c'est dommage, elle ne veut pas s'exprimer dans le micro, mais c'est dommage parce qu'elle disait que jusqu'à présent elle a toujours voté et maintenant elle ne veut plus. Et donc moi j'ai aussi envie de parler de ça parce que j'ai beaucoup de copains qui me disent... ouais, mais ça sert plus à rien. Les institutions sont complètement pourries. Ça va pas du tout. C'est pas pour nous. Il vaut mieux qu'on essaye de développer des modes d'être à côté, autrement, de faire de la production agricole respectueuse de l'environnement, de développer une activité locale, du vivre ensemble au niveau local. Et en fait, moi, je ne fais pas que militer. Pour le vote. Je milite aussi beaucoup contre les traités de libre-échange. Je pense que vous avez tous entendu dire ces derniers jours dans les médias que ça y est, la France abandonnait le TTIP, qu'on appelle aussi TAFTA, qu'on appelle aussi Grand Marché Transatlantique avec les États-Unis. Alors déjà, méfions-nous. Tant que c'est pas signé, c'est comme si rien n'était fait, d'une part. D'autre part, derrière le TAFTA, il y a un autre accord qui s'appelle le CETA, qui est un accord avec le Canada, en sachant que le Canada est lié avec les États-Unis par un accord de libre-échange qui s'appelle l'ALENA. Ça veut dire qu'en fait, si on signe le CETA début octobre, comme c'est dans les tuyaux, eh ben, ça veut dire que c'est comme si TAFTA était passé. Et ce que vous ne savez sûrement pas, et c'est pour ça que c'est vraiment important de faire de l'éducation politique, c'est que dans cet accord CETA, qui fait 1590 pages, ou je ne sais pas combien, en anglais, mais qu'on peut lire, on se rend compte que pratiquement toutes les AOP françaises ont disparu. Pour l'instant, en France, il y a 1400 AOP. Et en fait, ils en gardent environ 140. Voilà. Et donc, il faut aussi savoir que l'huile d'olive de Nyons ne fait pas partie des AOP conservées, que le picodon ne fait pas partie des AOP conservées, etc., etc. Donc, on peut essayer de faire une agriculture locale. On peut essayer de vraiment défendre un art de vivre en commun localement. Mais quand ils vont arriver avec toute leur puissance financière... Eh bien, si on n'a plus les protections qu'on a mis des années à mettre en place, ça va être très difficile pour les petits agriculteurs locaux, vraiment très difficile. Donc nous, ça fait des mois et des mois qu'on alerte, ça fait des mois qu'on a réussi à faire en sorte que des communes se déclarent zone hors TAFTA, par exemple la commune des Piles où nous sommes actuellement. Mais si on n'est pas soutenu, si on s'épuise parce qu'on n'est pas assez nombreux à faire ce travail d'éducation politique, d'information, etc., après, quand les choses sont votées et qu'il est trop tard, faut pas pleurer. Voilà, y a un moment où on peut encore faire les choses et c'est notre devoir de citoyen de les faire. Mais une fois que c'est fait, une fois que c'est signé, c'est quand même très, très difficile de revenir en arrière.
Oui, je voulais répondre aussi à l'auditrice là, qui est tout près de chez de nous, là, qui n'a pas voulu s'exprimer au micro, malheureusement. Mais je suis d'accord avec elle. Elle a dit je ne vais plus voter parce que je n'ai plus confiance aux institutions telles qu'elles sont. C'est vrai, moi non plus. Puisqu'on a parlé du référendum de 2005, où on a été bafoué. On a parlé de mon ennemi, c'est la finance, et qu'en réalité, c'est ses amis, la finance, notre président actuel. Donc ces institutions-là, avec un président monarque, moi, personnellement, je n'en veux plus. Et c'est pour ça que je vais voter aussi, pour changer ces institutions, et pour en mettre d'autres en place. Ça s'appelle la 6e République, ça s'appelle la Constituante, ça s'appelle de refonder une constitution par les citoyens et pour les citoyens. Et j'insiste bien, par les citoyens et pour les citoyens, pour renverser cette monarchie républicaine qui existe depuis trop longtemps.
J'avais une chose à ajouter sur la Constituante. Une des règles de la Constituante, c'est que les citoyens qui sont élus, désignés, choisis, on ne sait pas trop comment ça va se construire, ça, mais ils participent à l'écriture de la nouvelle Constitution. Et après, ils n'ont pas le droit d'être élus pendant un laps de temps qu'ils détermineront, mais qui veut dire que du coup, en aucun cas, ils ne peuvent écrire la nouvelle Constitution pour eux. Ils vont vraiment l'écrire pour nous tous, c'est-à-dire pour qu'enfin la voix du peuple soit entendue, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement.
Et vous pensez que du coup, les élections, enfin, la gauche en 2017, vous y croyez vraiment ? Par les élections ?
Quelle gauche ?
La gauche, la seule, ceux qui peuvent encore rester quelque part. Disons que ceux qui sont plus pris par la désillusion aujourd'hui, c'est quand même les électeurs de gauche qui ont voté PS au second tour en 2012, qui se retrouvent avec une politique tout aussi, voire plus à droite que dans le gouvernement précédent sur certains aspects. Est-ce que finalement, c'est pas les électeurs de gauche qui sont les plus perdus là-dedans, les plus désillusionnés, qui n'iront pas voter en 2017 à cause de ce sentiment de trahison presque ?
Alors, en 2012, quand on a fait toute la campagne pour le Front de Gauche à l'époque, on a rencontré énormément d'électeurs qui nous ont dit « Ah oui, mais tu te rappelles 2002 ?» Ah non, moi je veux pas de ça. Bon, c'est sûr que Hollande, il me convainc pas complètement, mais je vais voter utile. Je vais voter utile. Ça, c'est la catastrophe absolue. Voter utile, c'est pas voter pour le moins pire, c'est voter pour ses idées. Si en 2012, tous ceux qui ont voté pour ce qu'ils imaginaient le moins pire en fonction de ce qu'ils ont entendu dans les grands médias de l'oligarchie et dans les sondages de l'oligarchie avaient voté en fonction de leurs convictions, vraisemblablement, le Front de Gauche aurait pu être en tête. Parce que le peuple de gauche qui se cherche une voie pour qu'une vraie politique de partage et de respect du vivant se mette en place, il est nombreux en France. Il y a vraiment du monde. Et donc, si ceux-là se ressaisissent de la chose politique et disent... nous, on ne va pas se soumettre à l'ordre du monde tel qu'il est. Nous, on va résister et notre manière de résister, ça va être de s'informer, de discuter, de débattre avec nos proches, qu'on a tous ce travail à faire et on a encore quelques mois pour pouvoir le faire. Et on peut infléchir, la campagne, on peut infléchir les propositions, on peut participer, on peut dire qu'on est volontaire pour la Constituante. Enfin, il y a vraiment des choses qu'on peut faire. Eh bien, si toutes ces personnes-là se mobilisent et décident de reprendre leur destin en main, on peut être en tête. Ce n'est pas du tout impossible. Moi, je rappelle quand même Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, 4 800 000 voix. Jean-Luc Mélenchon pour le Front de Gauche en 2012, 4 millions de voix, 800 000 voix si on s'y met tous, c'est vraiment pas, c'est pas impossible. Alors peut-être que dans ceux qui ont voté en 2012, il y en a qui ne revoteront pas cette fois-ci, mais peut-être aussi qu'il y en a beaucoup qui vont voter, parce que la confusion est tellement énorme partout, y compris dans le, par rapport aux écologistes. On a beaucoup de copains qui sont au parti EELV et qui sont complètement désabusés, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, qui ont l'impression que ça a éclaté, qu'il y en a qui sont allés au gouvernement, qui se sont compromis, qu'il y en a qui sont rentrés pour des places et pas pour mettre en place une politique au service de tous. Donc il y a un vrai désarroi chez le peuple de gauche. Mais c'est vraiment à nous, le peuple de gauche, de nous emparer de ces questions fondamentales pour nous et puis de faire notre travail citoyen, c'est-à-dire de débattre et d'informer et de débattre et d'informer. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Personne ne le fera à notre place. Il ne faut pas attendre qu'on vienne nous dire d'ailleurs ce qu'on doit faire. C'est à nous de savoir ce qu'on doit faire et de faire en sorte que nos idées, notre désir de vie tel qu'on le pratique ici tout le temps, enfin on vit dans la convivialité, on vit dans le respect du vivant, ben ça on peut tout à fait faire en sorte que ça soit l'avenir du pays, de notre pays et pas seulement de notre pays, parce que franchement si on arrivait à faire ça en France, au niveau mondial ça aurait un écho énorme. Et quand on entend tous les bruits de bottes un peu partout, quand on voit comment les lobbies militaires, en particulier dans le cadre de l'OTAN, font monter les tensions aussi bien avec la Chine et qu'avec la Russie. C'est vraiment très, très, très important en ce moment, particulièrement, de ne pas baisser les bras et de dire on a une responsabilité tous vis-à-vis les uns des autres. Et ça peut passer par ce tout petit bout de papier qu'on glisse dans l'urne. Et finalement, si on réfléchit bien, pour l'instant encore, sur ce plan-là, nous sommes égaux en France, peut-être plus pour longtemps, mais pour l'instant encore. Donc ce droit que nous avons eu tellement de mal à obtenir, ben, il faut l'utiliser, sinon on va le perdre.
Merci, on a bien compris le message. Alors égaux face au vote, donc on est égaux dans l'acte de voter. Est-ce que vous pensez qu'on est par contre tous égaux face au vote, face à l'analyse, face au fait que notre vote protégera nos intérêts et pas ceux des autres? Je veux dire qu'il faut, on en revient à la question de tout à l'heure, mais est-ce que tout le monde est égaux face au vote finalement? Qu'est-ce que vous pensez vraiment?
Je vais prendre encore la parole, je monopolise un peu, je suis désolée, mais il suffit pas d'aller voter et puis de se désintéresser de la chose publique. C'est-à-dire que y a ce travail d'information et d'engagement avant, pour savoir ce qu'on choisit. Mais ce travail, on a vraiment la nécessité de le poursuivre tous ensemble. Et franchement, c'est joyeux. Enfin, c'est pas une corvée, quoi. Nous, on éprouve beaucoup de plaisir à rencontrer des personnes, à discuter, à argumenter. On n'est pas tous d'accord, c'est pas grave. Et puis, on a le droit de changer d'opinion, c'est pas grave. Mais tant que le débat existe, on est dans le vivant. Si le débat s'arrête, on va dans une forme de mort sociale. Et d'ailleurs...
Mais on le voit aujourd'hui, le débat, ouais. sur quoi il se concentre majoritairement, ce que véhiculent les grands médias, là où se fabrique finalement la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, elle se fabrique plus dans la rue que devant des écrans de grands médias et à la fin dans l'isoloir avec, parce qu'il y a des, par exemple, enfin, voilà, le thème de l'isoloir, de l'opinion individuelle, est-ce que c'est pas un mythe? Il y a des gens très défendables comme Sartre qui écrivait Élection, piège à con à leur époque, en expliquant que c'était aussi une manière d'individualiser l'opinion qui, de toute façon, est aussi... vient de l'extérieur et notamment par ces grands moyens de communication. Où se fabrique la démocratie aujourd'hui? Je veux dire, quand une personne arrive à l'urne, où est-ce que sa conviction a été fabriquée? Est-ce que vous pensez que c'est plus dans le débat, dans la rue ou plus
Il y a des journaux, des petits journaux comme Fakir. Et quand même, il y a eu un plébiscite pour le film de François Ruffin, qui est donc celui qui est à l'origine de la création de ce journal Fakir. François Ruffin, il a fait un film qui s'appelle Merci Patron, qui a eu un succès énorme en France, qui continue à tourner, qui est drôle, qui est jubilatoire, parce que pour une fois, on a l'impression qu'en s'y mettant tous, les petits, ils arrivent à se faire respecter. Et c'était plutôt joyeux. Et puis dans la foulée de ça, il y a eu les Nuits Debout, ça continue, ça y est, ça a repris dans pas mal d'endroits, tout doucement, ça reprend. Et puis il y a les mobilisations syndicales, c'est pas parce que le gouvernement a utilisé le 49.3 pour faire passer la loi travail que les gens sont d'accord. Il y a quand même 70% des Français qui sont pas d'accord avec la loi travail, et donc ça va repartir. Et puis, à titre personnel, moi, j'ai été contractuelle à l'Éducation nationale dans le cadre des contrats uniques d'insertion. Et l'Éducation nationale s'est vraiment moquée de nous. Et j'ai appris aujourd'hui qu'on a gagné. On a fait un procès au prud'homme et on a gagné. Je ne sais pas encore ce qu'on a gagné. Mais en tous les cas, on a gagné. Donc, ça veut dire que si on se laisse faire, c'est clair qu'on perd. Mais si on ne se laisse pas faire, on a une chance de gagner. Donc, ça peut se faire dans la rue, ça peut se faire un peu partout. Quand on éteint la télé, on a du temps pour aller discuter avec les copains. On n'est pas obligé d'acheter les grands journaux achetés par les Rothschild ou les Lagardère. On peut tout à fait soutenir la petite presse parallèle, comme par exemple Fakir ou d'autres. Il y en a plein des vraiment bien, comme CQFD ou de ce type de journaux. On peut soutenir ces médias citoyens. Et là, on aura vraiment une information à notre hauteur, quoi, par rapport à nos besoins, par rapport à nos intérêts et pas par rapport aux intérêts des plus puissants.
Oui, merci, donc, Robert. Pour répondre à ta question, comment se faire une opinion, c'est vrai que la majorité des gens, quand même, même si je ne suis pas d'accord, se forge une opinion à travers la télé ou la radio ou la grande presse aux mains des tout-puissants, n'est-ce pas? Mais encore...
Est-ce qu'on peut parler de démocratie alors, si c'est ces gens-là qui vont voter?
Non, ben non, ils sont pas libres de leur opinion puisqu'ils sont vaccinés à longueur de journée sur une opinion unique.
Mais alors voilà. Demandez aux gens.
Un exemple que j'ai vécu hier, pas plus tard que hier, sur une télé du service public où un journaliste affirme sans rougir que Macron est le seul serait le seul candidat en dehors des partis, ce qui est complètement faux, puisque Jean-Luc Mélenchon, cette année, est un candidat en dehors de tout parti, en dehors de cadre de parti. Il est libre de tout parti. Donc déjà, ce journaliste, soit il est mal informé, ce que je ne crois pas, soit il est du côté de l'oligarchie.
Alors, est-ce que c'est une forme de démocratie si finalement les gens n'ont pas la liberté de leur opinion et qu'on leur demande d'aller... Est-ce que finalement tout ça ne peut pas être aussi bien agencé pour que tout se passe bien? Et est-ce que le vote ne peut pas être aussi une simple source de légitimation d'une politique où on sait de toute façon qu'on contrôle l'opinion des gens qui iront, quoi?
C'est ce qu'on nous avait dit au référendum en 2005. Jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, les médias ont dit que le oui allait être gagnant. Et le non a été gagnant à plus de 54%. Ça veut dire que tout ce travail...
Ça n'a pas été suivi, par contre.
Voilà,
est-ce qu'on peut se demander si finalement, quand le vote va à leur encontre et que ce n'est pas suivi, est-ce que c'est encore utile de voter, dans ce cas?
Non, mais là, franchement, moi, je reprends cet exemple parce que, finalement, pourquoi ça a été 54% de vote non? Parce qu'il y a eu tout ce travail souterrain d'information militante, de débat militant, et que les gens, du coup, se sont saisis de cette question essentielle pour leur avenir. Ils s'en sont saisis. Ils ont arrêté d'écouter ce que les médias faisaient comme prédiction autoréalisatrice. Et du coup, elle ne s'est pas réalisée, la prédiction des grands médias. Donc, ça tient qu'à nous. Ça tient à chacun d'entre nous. C'est pas, y a personne parmi nous qui a... une science infuse, on en est tous là où on en est de nos questionnements, de nos recherches d'informations. Plus on va les partager, plus on va les confronter, plus on va échanger entre nous et plus on a de chances de grossir. Parce que ce qui se passe ici, là, au pile de cet échange qu'on a entre nous, ça se passe partout en France. Faut pas penser qu'il n'y a que notre petit coin, là, où beaucoup de gens veulent sortir de la confusion, où beaucoup de gens ont envie d'autre chose. Ce travail de fourmi militante, il se fait partout. Et ça, c'est un formidable enjeu d'espérance. On n'est pas obligé de subir. C'est quand même la Boétie, et c'est quand même au XVIe siècle, qui a écrit le traité de la servitude volontaire. Si nous, en 2016, on n'est pas capable d'entendre ce qu'il nous a dit à l'époque, c'est quand même dommage. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « refusez de subir et vous serez libre ». Je ne sais plus exactement comment il l'a formulé, mais le sens, c'était ça. C'est tant qu'on accepte de se soumettre, effectivement, on subit. Si à un moment, on dit qu'on ne veut plus subir et qu'on se remet debout et qu'on se donne les moyens, chacun d'entre nous, d'arrêter de subir, eh ben, on redevient libre et on arrête de subir. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément en 2017. Ça ne veut pas dire que, par exemple, ça ne sera plus encore une fois M. Mariton qui sera notre député de la 3e circonscription de la Drôme et qui entamera alors, si je ne m'abuse, son 5e mandat comme député. Mais ça peut changer aussi. C'est à nous tous, dans la 3e circonscription de la Drôme, de dire « Bon, c'est bien, Mariton. Ok, d'accord, merci. Vous avez travaillé pendant je ne sais pas combien d'années. On vous a bien vu. Maintenant, on veut autre chose. » C'est à nous de dire qu'on veut autre chose. Si on se laisse imposer les choses, eh ben effectivement, on les subit.
Est-ce qu'on ne glisserait pas, à travers tout ce que tu dis, vers une nouvelle forme de démocratie aujourd'hui, où le vote resterait un petit peu l'acte qui deviendrait un petit peu traditionnel de la démocratie, mais est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles formes qui sont en train de s'inventer à travers les Nuits Debout, à travers ces mouvements dont tu parles aujourd'hui, à travers une mairie près d'ici, comme la mairie de Saillant, qui essaye d'inventer d'autres types de démocratie? Et est-ce que finalement ce serait pas ça? Alors on parlait aussi du discours sur la servitude volontaire de la Boétie. Les détracteurs du vote ont aussi pour habitude que certains disent que finalement aller voter c'est aussi se destituer d'un pouvoir et élire les représentants d'un peuple et donc d'une certaine forme de démocratie, mais qui commencerait à vieillir. Est-ce que ce serait pas une des causes de l'abstention aussi? Est-ce que c'est les gens qui se mobilisent moins politiquement ou est-ce qu'on se mobilise autrement pour aller vers d'autres formes?
Alors,
quelle place laisse à ça le vote?
Soyons quand même lucides sur l'état de notre société. Tant que les institutions de la Ve République s'imposent à nous, elles ont force de loi. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas pris le pouvoir pour changer ces institutions et promouvoir d'autres formes de démocratie, comme par exemple le référendum révocatoire, ça serait quand même bien si on voit que la personne qu'on a élue au bout de 2 ans et demi, visiblement, elle n'a rien à faire de ses engagements et qu'elle nous a menti. Ça serait vraiment bien qu'on puisse la destituer. Mais pour qu'on puisse faire ça, c'est-à-dire pour qu'on puisse promouvoir d'autres formes de démocratie, il faut changer les institutions. Et le seul moyen actuellement de changer les institutions, c'est de prendre le pouvoir par les urnes. Il faut quand même se rappeler que quand on a changé les institutions et qu'on est passé de la monarchie absolue à la République, ça s'est fait dans le sang, ça s'est fait dans la douleur, ça s'est fait dans la souffrance. Et que si on peut éviter d'en arriver là, ça serait quand même vraiment bien de ne pas laisser passer cette opportunité de pouvoir changer les choses, on va dire, dans une forme de sérénité, même si ça ne sera pas sans difficulté et sans conflit. Il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux de domination et des enjeux économiques extrêmement importants derrière tout ça. Et moi, je rajoute, et vraiment je pèse mes mots, qu'il y a de plus en plus des enjeux géostratégiques lourds de conséquences si on s'embarque là-dedans. Si on reste dans la dynamique actuelle et dans l'OTAN, on est engagé dans un système d'alliance et on peut se retrouver embarqué dans des histoires avec lesquelles nous ne sommes pas du tout d'accord. Il faut quand même se rappeler que pendant la Première Guerre mondiale, ceux qui n'étaient pas d'accord, ils se faisaient fusiller parce qu'on les traitait de déserteurs. Donc on peut avoir, des envies, des désirs, mais il ne faut pas oublier la réalité. Et la réalité telle qu'elle est actuellement, c'est que dans le cadre de la Ve République, les choses s'imposent à nous. Donc si on veut que ça change, il faut utiliser les outils qu'on a à notre disposition. On a encore le vote.
Merci, on l'aura bien compris. Alors peut-être avant une dernière petite question, avant une deuxième coupure musicale, puis si des gens veulent intervenir, ils pourront intervenir derrière. Est-ce que vous pensez que finalement les représentants qu'on élit ont vraiment ce pouvoir de changement? On l'a vu par exemple en Grèce avec Syriza. Est-ce qu'aujourd'hui finalement il n'y a pas une pression internationale telle et de lobby si gros que finalement peu importe qui on élit, on retrouve, ils n'ont pas le pouvoir nécessaire d'aller vraiment vers ce changement auquel ils espèrent intimement.
Si on les laisse tout seuls une fois qu'ils sont élus, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Si on les accompagne une fois qu'ils sont élus, ça leur donne vraiment de l'énergie et du pouvoir parce qu'ils savent que même s'ils sont très minoritaires, ils ne sont pas tout seuls. Je donne comme exemple ce qui s'est passé à la dernière élection régionale. On avait réussi à faire un rassemblement entre pas mal de partis et des citoyens. On n'était pas assez nombreux, on le regrette. On a réussi à avoir 8 élus à l'Assemblée régionale, ce qui est très, très peu, vraiment très peu. Et n'empêche qu'ils nous rendent compte, à tous ceux qui ont participé à ce travail de rassemblement, de ce qu'ils font. Ils nous mobilisent quand ils ont besoin d'être soutenus. On les encourage, on est là derrière eux. Et du coup, ils ne baissent pas les bras, même s'ils ne sont que 8. Parce qu'ils savent qu'ils sont nos représentants et ils jouent vraiment ce rôle de nos représentants. Par exemple, c'est vraiment aussi eux qui nous ont alertés sur le fait qu'il y allait avoir une deuxième autoroute parallèle à l'autoroute Lyon-Saint-Étienne. Si ce n'est pas de la gabegie d'argent public au moment où on supprime toutes les subventions aux associations. Mais s'ils ne sont pas là-bas, si on ne les a pas pour nous informer, on ne le sait pas vraiment tout ça. Et donc, on ne peut pas non plus se mobiliser. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des élus qui nous représentent et de les soutenir tout au long de leur mandat. Ça, c'est notre engagement citoyen.
Je voulais répondre aussi à ta question par rapport à la Grèce. Il est certain que la France, la position de la France en Europe n'est pas la même que celle de la Grèce. Et que si on a un gouvernement qui a le courage de taper les poings sur la table face à la politique menée par Angela Merkel, tout peut changer. Parce que moi, je parle pour le candidat de gauche. Je ne parle pas des socialistes, je parle du candidat de gauche. S'il va voir Angela Merkel pour changer les traités européens, il aura la population derrière lui. Tsipras l'avait aussi, mais...
C'est
pas le même poids économique. La France est, au point de vue économique, est presque l'égale de l'Allemagne, alors que on peut pas dire autant de la Grèce. Donc, pour changer et vraiment
face aux lobbies économiques, face aux grands investisseurs, aux grands financiers, est-ce qu'ils n'ont pas plus de pouvoir que les politiques aujourd'hui, finalement?
Est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'inverser la locomotive justement?
Il faut regarder ce qui se passe sur TAFTA. Il faut regarder où la mobilisation citoyenne a réussi à emmener nos gouvernements, puisqu'on se rend compte que cet aspect de la politique dont on ne parlait pas du tout, on a réussi à la populariser à un tel point que le gouvernement de la France a dit qu'il ne signerait pas TAFTA. Bon, on ne lâche pas l'affaire tant que ce n'est pas vraiment fait, mais ça, c'est uniquement la pression citoyenne qui a obtenu ça. Ce n'est pas autre chose. Si on avait attendu les bras croisés, ça serait complètement déjà sans doute signé, puisque Hollande, il était allé aux États-Unis et il avait dit « il faut qu'on signe TAFTA le plus rapidement possible ». Il n'a pas pu le faire parce que nous sommes là, nous, les citoyens.
Mais là encore, par la mobilisation, par le rassemblement, et
exactement,
pas par le vote.
Non, quand même. Il y a, comment on pourrait dire, il y a le vote, parce que quand même, on a fait des campagnes auprès des députés, et nos députés se sont dit, oulala, si je veux être réélu, il faut peut-être que je prenne position. Donc le vote a joué. Si ils savaient, nos députés, que de toute manière, quoi qu'ils votent, ils resteront en place, ils seraient peut-être moins attentifs à certaines choses qu'on leur suggère. Mais là, dans la mesure où ils ont bien compris qu'on était très nombreux à ne pas être d'accord du tout, ça les fait réfléchir. Et c'est parce qu'il y a le vote.
Merci. On se retrouve dans 2 petites minutes pour conclure. Et s'il y a des interventions, elles sont les bienvenues. On retrouve une deuxième petite coupure musicale et on écoute
Numbar.
Numbar. Merci Aymeric, qui était à la technique.
Aç gelen uşu humare Yere korvalu senin hıma Un kere geru gamare Arev solaz sani karin Nubar gere tante verin O vardı senin nubari Çimoran aram postari O vorde sni manu bari ci morana ram postari
Et nous revoilà toujours sur le marché de producteurs des piles comme chaque lundi soir pour l'avant-dernière émission de la saison. On est toujours avec Hélène et Robert autour du thème de l'abstention et de l'inscription sur les listes électorales. Et on est avec une auditrice assidue qui a écouté l'émission et on aimerait avoir, donc Suzy, ton sentiment sur ce que tu viens d'entendre. L'inscription sur les listes électorales et le vote, tu es convaincue ?
Ouais, plutôt, ouais. Je trouve que vous êtes bien débrouillés. N'étant moi-même pas très facile dans ce genre de débat, parce que, bah, comme disait l'autre auditrice aussi, un peu désabusée de ces institutions, et puis de voir que, même en fondant de l'espoir sur des petits partis, il y a toujours des guerres d'égo et de où est-ce que je peux me placer, d'opportunisme, et ça, j'ai du mal à... Ouais, bref... fonder vraiment de l'espoir et à pouvoir me sentir représentée par un politique dans ce système-là actuel. Après, en effet, moi, je suis plutôt convaincue par l'argument de le vote, c'est notre dernier outil aujourd'hui pour vraiment se faire entendre et essayer de faire changer ces institutions-là. C'est vrai qu'il y a des nouveaux moyens aujourd'hui, un peu détournés, de pouvoir parler d'éducation politique, de pouvoir investir des places publiques qui sont en train de se créer et qui sont pertinentes. Mais pour vraiment pousser un gros coup de gueule où on est nombreux entendus, en effet, je pense que le vote a son sens. Voilà.
Donc le message a l'air d'être plutôt passé. Enfin, c'était votre message. Donc, on le rappelle, vous incitez les gens à s'inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre pour participer aux élections de 2017. Donc les élections présidentielles, mais aussi les législatives. Un petit mot pour terminer ou une réponse à Suzy. Il nous reste 3 minutes avant de terminer cette émission.
Une toute petite chose. Il ne suffit pas de s'inscrire sur les listes électorales. Il faut vraiment, on a en gros 6 mois pour s'informer et débattre. Et pas hésiter, toutes les questions qu'on a à les poser à son voisin, à son cousin, à gâcher un peu les repas de famille, mais à y aller à fond, quoi. Parce qu'après, une fois que ça sera passé, ça sera difficile de faire marche arrière, même impossible.
Moi, j'ai bien entendu Suzy quand elle a dit, on a l'impression qu'on vote toujours pour des gens... Je ne sais pas ce que tu as dit, qui se font élire pour leur place, quoi.
Ouais,
à peu près ça.
Quoi.
L'opportunisme, voilà, c'est le mot opportuniste. C'est vrai que beaucoup se font élire par opportunisme. Maintenant, je voudrais répondre, parce que moi, j'ai un candidat pour qui je vais voter. On ne peut pas dire qu'il soit opportuniste, parce que s'il était opportuniste, il ne serait pas où il est actuellement. Il serait peut-être ministre actuellement. Et surtout, il veut se faire élire à la présidence de la République pour pouvoir... abroger la fonction de président de la République. Parce qu'il considère que c'est le président de la République, c'est une monarchie républicaine, et il veut abroger cette monarchie républicaine pour pouvoir faire le boulot, rentrer chez moi et me reposer. Donc, je pense qu'il n'est pas opportuniste dans ce sens-là. Il ne veut pas être élu 5 ans et faire une politique qui lui permettrait d'être élu encore 5 ans. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Lui, il veut être élu pour 2-3 ans maximum pour pouvoir démissionner, abolir la fonction du président de la République, rentrer chez lui et se reposer.
Attention, je rajoute une chose. Hein. C'est mettre en place une assemblée constituante et se plier aux décisions de l'assemblée constituante en sachant que dans les désirs qu'il portera, ça sera d'arrêter la fonction de président de la République.
Je vais terminer par une phrase. Cultiver la bienveillance, l'humain d'abord. L'humain avant tout.
Merci Robert et merci Hélène. Donc vous irez voter et on sait pour qui d'ailleurs.
Oui. Aucun problème.
Merci pour ce débat.
Éternellement insoumis, hein. Même avec nos cheveux blancs, encore éternellement insoumis.
Merci à vous deux. Donc on rappelle le message, débattez, informez-vous, puis allez vous exprimer en 2017, donc au printemps. Et Adol.
Merci.
Merci Hélène, merci Robert. Et nous, on se retrouve pour une toute dernière émission la semaine prochaine, donc toujours à la même heure sur le marché de producteurs des piles. Ce sera Benoît qui viendra animer musicalement cette dernière émission. Merci à vous deux et merci à Aymeric, à la technique. C'était Radio Live pour le marché des producteurs Radio Buette. À la semaine prochaine.
Ensemble,
ici.
Radio Live.
La radio des initiatives.